La bienveillance, c'est un de ces paramitas, de ces puretés du cœur qui, d'une certaine manière, sont des expressions de l'éveil. Et la bienveillance, c'est cet engagement pour le bien en moi, pour le bien des autres, qui n'est pas tellement intéressé par le résultat, mais qui est une aspiration humble, qui est plutôt liée à juste faire sa part. Et chacun fait sa part, il n'y a pas une part qui est mieux qu'une autre. Mais la mienne, je la fais et je m'engage à la faire. Et la bienveillance, elle est particulièrement là lorsque la pleine conscience accueille l'expérience. On peut croire que la bienveillance, c'est un état particulier de bonté, mais qu'est-ce que je fais quand l'expérience est aversion, doute, angoisse, et que je regarde et que je ne peux pas être dans la bienveillance? Et c'est important de sentir que quelquefois, cette qualité bienveillante est perçue par le corps et l'esprit, ressenti, mais quelquefois elle n'est pas ressentie du tout. Et pourtant, une pleine conscience qui accueille l'expérience, c'est de la bienveillance. Et ça, c'est quelque chose de fin et qui s'approfondit lorsque nous entrons dans ce travail méditatif. Je peux être bienveillante pour le corps quand il a mal. Ça veut dire qu'il y a cet espace de réceptivité. Je peux être bienveillante pour toutes ces émotions. Ou je peux voir comment il y a attrait pour les émotions qui me font du bien, que je trouve bonnes, les miennes, celles des autres. Et comment il y a rejet pour les émotions lorsqu'elles sont douloureuses, que je les trouve non bénéfiques pour moi ou pour les autres. Et c'est important de se souvenir que la libération n'est pas à côté de l'expérience. La libération est dans l'expérience. Et j'entre en amitié avec moi-même, c'est de la bienveillance. Quand j'ai le courage de laisser être l'émotion perturbatrice. Et je fais acte de bienveillance lorsque j'accueille les pensées. Toutes ces pensées qui viennent. Des pensées de jugement. Une, et puis encore une, et encore une. Que ce soit le jugement par rapport à moi-même, par rapport à l'autre. Toutes ces pensées d'anticipation, plus ou moins poussées, créées par l'angoisse, ou en tout cas l'anxiété. Toutes ces pensées liées à comment j'aurais dû faire, comment j'aurais pu faire, le passé. La culpabilité ou le ressentiment. Et c'est de la bienveillance quand la pleine conscience fait acte de connaissance. Bien sûr, si je peux en plus avoir un réel respect de l'expérience et cette sagesse qui fait que j'ai lâché l'illusion que je crois qu'il faudrait que ce soit autrement. L'illusion que la vie pourrait être parfaite. Évidemment, à ce moment-là, il y a cette empathie, parce que le cœur sait que s'il y a le jour et la nuit dehors, pourquoi est-ce que je veux seulement le jour dedans? Qu'est-ce que c'est que cette forme d'orgueil? Et le cœur sait que le monde est duel, le monde est dans ses notions de gain et de perte, la perte matérielle, ou le gain matériel, la perte affective ou le gain affectif, la perte émotionnelle, interrelationnelle, le plaisir, la peine. Le cœur sait, ok, le monde est dans la dualité. Et c'est vrai, quelquefois l'épreuve est terrible, redoutable. Alors nous avons le choix entre la réactivité ou la compassion. La réactivité qui oublie que le problème, c'est pas qu'il n'y ait pas de problème. C'est peut-être au contraire d'accepter que la vie est problème et que c'est pour ça qu'elle s'appelle la vie. Et que c'est mon choix. Parfois, je peux être dans cette connaissance bienveillante de l'expérience, je peux accueillir. Quelquefois, je ne peux pas accueillir, mais je peux au moins voir. Et quelquefois, je ne vois pas. Et dans la compassion, il y a cette sensibilité à ma propre peine, à la peine des autres, à la peine du monde, qui lâche l'identification ou l'appropriation ou la possession. C'est une compassion qui est sage, ça veut dire qu'elle sait qu'un monde parfait, ça n'est pas le programme. Ni en moi, ni hors de moi. Par contre, une pleine conscience bienveillante installée, ça, c'est pour ça qu'on est là. Parce qu'un idéal ne fait que nous empêcher d'être dans l'intimité de l'expérience. Un idéal nous fait miroiter un diamant qui n'existe pas, alors que le diamant du ici et maintenant, il est toujours disponible. Alors, quelle est ma priorité? Comment est-ce que je peux laisser le monde? Ça ne veut pas dire pas faire ma part, mais ça veut dire la faire sans angoisse, sans crainte, sans en totale confiance. Mais évidemment que si c'est une confiance qui est conditionnée, ok, j'ai confiance si les choses sont comme ça. Mais si les choses sont comme ça, c'est trop dur. C'est pas cette bienveillance-là que nous cherchons. Ce que nous cherchons, c'est quelque chose de beaucoup plus total, plus universel, plus incluant. Tant que j'ai l'impression qu'il y a une faute ou une erreur quelque part, je vais toujours chercher à changer les choses là. C'est ce que nous faisons depuis la nuit des temps. Et le retournement, c'est de commencer à changer les choses là. C'est notre choix et notre responsabilité. C'est Ajahn Chah qui dit, cette grosse pierre-là, est-ce qu'elle est lourde? Ah oui, disent ces moines. Et Ajahn Chah lui dit, elle est lourde seulement si vous voulez la porter. Pourquoi est-ce qu'il y a ce besoin de porter le monde? Christiane Singer disait quelque chose de très beau. On peut saisir la vie ou on peut recevoir la vie sur une main ouverte. Je porte mon poids, je porte le poids du monde. Ah mon Dieu, ce qui lui arrive, c'est horrible. Ça touche, oui, ça touche. Mais en même temps, si ça arrive, c'est que ça fait partie d'un mécanisme complexe et nécessaire pour nous permettre de grandir. Comme ça, l'épreuve prend tout son sens ontologique, il prend tout son sens, elle prend tout son sens sacré. Alors nous pouvons voir comment cette bienveillance, cette pleine conscience bienveillante, elle est là ou elle n'est pas là. Et comment, quand elle n'est pas là, je peux actualiser la bienveillance par la réceptivité. Et c'est tout autre chose de vivre le rejet comme « Ah, ça va pas, je déteste, c'est comme si, c'est comme ça, ça devrait. » Ou de vivre le rejet avec cet intérêt « Ah ouais, juste maintenant, il y a une énergie de rejet de l'expérience. » Et ça commence avec les obstacles. Quand la méditation ne va pas comme je veux, je peux sentir cette contraction. « Ah, je cherche à faire que ce soit autrement. » Ça, c'est pas de la bienveillance. Et avec l'attrait, c'est pareil. Je peux avoir de l'attrait pour l'expérience. Mais si je ne le vois pas, je suis totalement emprisonnée. Et souvent, je suis plus ou moins totalement emprisonnée. Je vois un mot, ok, mais je vais quand même. Et c'est ok, c'est ok. Je peux aller quand même. Plus je suis en pleine conscience, bienveillante avec cet attrait, plus il va lâcher son emprise sur moi. Donc je n'aurai rien à défendre. Je n'aurai rien à vouloir fortement. Je peux juste voir, ok, si c'est possible, j'y vais, pas de problème. Et si c'est pas possible, pas de problème non plus. C'est vrai que dans cette bienveillance qui devient équanime, de plus en plus équanime, au début je peux avoir de la bienveillance pour certaines personnes, pour certaines énergies en moi, pour certaines situations, pas pour d'autres. Et plus ça devient pur, plus ça se purifie dans l'équanimité, plus je me rends compte que, ok, il faut... De même que nous avons le jour et la nuit, il faut l'ombre et la lumière. Mais ces énergies de l'ombre, elles sont puissantes. Ce sont de très puissantes énergies karmiques. Et c'est envahissant et ça mène au doute existentiel profond, à l'angoisse existentielle. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de ça? Quand la voix du moi, quand je suis dans une crise d'identification existentielle, qu'elle soit en positif, tirez-vous tous de là, c'est moi, ou bien en négatif, mon Dieu, j'ose pas, j'angoisse, nous pouvons sentir cette, cette force de la voix du moi qui est plus puissante que la pleine conscience bienveillante. Alors, de nouveau, je me souviens que la libération est à l'intérieur de la souffrance. Et si je peux juste voir, mais je suis dans une crise, dans une attaque d'identification, peut-être majeure, ça ne veut pas dire que ça s'arrête. D'ailleurs, le but, ce n'est pas que ça s'arrête. C'est que je sois C'est que dans cette lutte entre la conscience et les forces animales, on pourrait dire, que la conscience soit prioritaire, devienne prioritaire. Donc, c'est toujours pareil, être là, et être là de la bonne façon. Donc, être là, c'est voir objectivement, avec d'une certaine manière distance, mais ça ne veut pas dire écarter, ça ne veut pas dire se mettre loin. Je suis en même temps en distance et dans l'intimité de l'expérience. Je peux complètement me laisser sentir l'angoisse, mais je suis complètement dans la pleine conscience et la contemplation. Donc cette angoisse n'a plus de pouvoir sur moi. Et c'est ça qui s'exerce dans l'exercice de la méditation. C'est de pouvoir savoir, connaître, faire acte de connaissance. Et c'est ça qui nous rend vraiment contents. J'ai trouvé une petite parole d'Apollinaire qui dit « De temps en temps, c'est bien de faire une pause dans notre quête de bonheur et juste d'être heureux. » Vous l'êtes juste maintenant ? C'est intéressant, parce que de se souvenir « Attends, mais juste maintenant. » Même avec des trucs émotionnels majeurs, des machins. Mais juste maintenant, la danse de la vie se passe. Mais c'est pas ça que je suis maintenant. Et tout à coup, je peux revenir là dans une telle humilité que j'ai pas besoin que mon expérience ou l'expérience de l'autre soit autre chose. Mais c'est difficile, parce qu'évidemment, d'être bienveillant quand il y a la joie, ça va pas mal. Mais de rester bienveillant quand c'est la fin de la joie, c'est plus difficile. Donc si je ne fais pas ce lien entre la bienveillance ressentie et la bienveillance de la pleine conscience qui simplement reçoit, si je ne me souviens pas de la puissance de bienveillance qu'il y a dans le fait de recevoir l'expérience, j'ai de la peine à pouvoir vraiment conscientiser « Ah oui, il y a la joie. Ah ben maintenant, c'est la fin de la joie. » Et l'accueil reste là. J'aimerais encore vous lire une parole qui s'adresse autant à l'autre qu'à moi-même. Aimer, c'est servir sans s'imposer. Servir sans vouloir convertir. Servir sans attendre de retour. Les trois sont identiques. C'est tout accueillir avec la même force, la même ferveur. Ne pas tenir à ses préférences. De nouveau, là, si je tiens à mes préférences, eh ben j'en fais quoi ? Alors, qu'est-ce que j'en fais ? Dites-moi. Si je vois que je tiens à mes préférences, je fais quoi ? Qu'est-ce que vous feriez, vous ?
l'accepte, on le voit. Mm-hmm. Et ouais, donner de l'amour, de la bienveillance, mais le voir en même temps. Mm-hmm. Ouais.
En général, on se contracte. Surtout si vous venez de m'entendre. Vous sortez, ça, vous avez monstre préférence. Waouh, monstre préférence. Hé, un peu d'humour. Je vois que je tiens à mes préférences. Qu'est-ce que je fais? J'y tiens encore plus, mais extrêmement consciemment. J'en rajoute encore une petite. Mais je le fais vraiment en pleine conscience. Ça aide beaucoup plus. Comme dit Idil, s'il y a la pleine conscience et puis un réel espace de réceptivité, ok, ben tu peux sentir tes préférences, franchement ça fait mal, tu sens ça tend là, c'est séparé, t'es pas dans la totalité, franchement c'est pourtant chouette. Ok, ben rajoute encore une petite. Et ça lâche très très bien si vous faites ça. Parce que en faisant ça, ce que l'énergie sent, c'est que la pleine conscience lui fait confiance d'une certaine manière. Qu'elle a vraiment compris que c'est dedans qu'est la libération et pas à côté. Que j'ai pas besoin de ne pas avoir de préférence, je peux pas. Je peux pas préférer ne pas avoir de préférence. Donc quand je sens que c'est comme ça, ok. Et alors les choses deviennent simples. Elles deviennent simples et... Il y a une force de la conscience qui se développe. D'une certaine manière, la vraie bienveillance, c'est la... C'est l'ouverture à la vie comme à la mort. Ça fait juste du bien. Est-ce que vous voulez partager maintenant ou après ?